VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi 5 août en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson, tout d'abord les titres.
Au Mali, le gouvernement renforce les mesures de sécurité à Nampala.
L'émissaire de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs appelle à la libération des prisonniers politiques pour faciliter le dialogue national et la tenue des élections.
Le chef de la branche du groupe État islamique dans le Sinaï, Abu Doua Al-Ansari, a été tué selon l'armée égyptienne.
Le président Barack Obama promet de lutter sur tous les fronts de manière agressive contre le groupe État islamique.
Ouverture aujourd'hui des Jeux Olympiques de Rio.
Donc ne manquez pas notre page sport, mais aussi la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Mali, renforcement du dispositif de sécurité à Nampala suite à la récente attaque qui a fait 17 morts. 6 soldats avaient aussi été portés disparus. Des détails avec Kassim Traoré.
À la suite des événements tragiques qui sont survenus à Nampala le 19 juillet 2016, le chef d'état-major général de l'armée a dépêché une mission d'enquête et de commandement sur le terrain, colonel Abdoulaye Sidibé.
Le rapport d'enquête diligentée sur le terrain le 24 juillet à la suite des événements douloureux de Nampala a établi un bilan qui fait état de 17 morts, 37 blessés et 6 portés disparus.
Des dispositions ont été prises pour transformer le poste de sécurité de Nampala en camp militaire.
Actuellement, nous avons un GTIA qu'on peut déchiffrer comme Groupement Tactique Inter-Armes qui est déployé à Nampala avec 100% de ses capacités, ce qui signifie un peu plus de 500 hommes avec plus de 100 véhicules.
Le nouveau camp militaire de Nampala sera un peu loin des populations, colonel Abdoulaye Sidibé.
Il y avait presque une imbrigation entre la position militaire et les populations civiles. Le camp a été retiré pour ne pas être imbrigué au sein de la population civile.
Le nouveau porte-parole du ministère de la Défense et des anciens combattants a demandé à la presse d'aider l'armée malienne dans sa mission Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'émissaire de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs a appelé hier à Kinshasa le gouvernement de la République démocratique du Congo à libérer des détenus politiques pour faciliter un dialogue avec l'opposition en vue de la tenue de l'élection présidentielle. M. Varveke s'exprimait en marge d'une réunion du groupe international de soutien de la facilitation et au dialogue politique en RDC composé des représentants de l'ONU, de l'UE, de la francophonie, de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la communauté de développement d'Afrique australe.
Entre le Burundi et le Rwanda, les relations se gâtent. Depuis hier, les véhicules de transport ne sont plus autorisés à franchir la frontière entre les deux pays. Arzuma Compaoré.
La police burundaise a confirmé que les véhicules de transport Volcano Yahoo Horizon en provenance du Burundi vers le Rwanda ne peuvent plus dépasser la frontière depuis hier à 8h GMT. La mesure est réciproque pour les véhicules venant du Rwanda vers le Burundi. Les véhicules de transport s'arrêtent à la frontière, les passagers descendent et traversent à pied pour prendre des voitures de l'autre côté. Les relations entre les deux petits pays voisins se sont détériorées depuis le coup d'État manqué du 13 mai 2015. Bujumbura accuse Kigali d'abriter les opposants et les rebelles. Le Rwanda a toujours démenti et accuse le Burundi d'abriter des miliciens FDLR, ce que démentent les autorités burundaises.
Trois prétendants, dont le président sortant, Jorge Carlos Fonseca, ont déposé leur candidature à l'élection présidentielle au Cap-Vert du 2 octobre, élection qui devrait se tenir sans un représentant de l'ex-parti unique, a annoncé hier la Cour constitutionnelle. Les trois candidatures doivent être validées par la Cour constitutionnelle 15 jours après la date limite de dépôt, mercredi soir, a déclaré à la presse le président de cette juridiction.
Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Joubeir, en visite à Dakar, a assuré que son pays voulait renforcer ses relations avec le Sénégal, a rapporté jeudi l'agence de presse sénégalaise. Aucune mention n'a été faite du cas d'une Sénégalaise, Madjigène Diop, dit Mbayang Diop, détenue pour meurtre en Arabie saoudite et menacée de décapitation alors que s'intensifie au Sénégal une campagne en sa faveur.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la branche du groupe État islamique dans le Sinaï a été tué selon l'armée égyptienne. Le point avec Eddie Isango.
Abu Doua al-Ansari, chef du groupe Ansar Beit al-Maqdes, branche du groupe État islamique dans la péninsule du Sinaï, a été tué dans des frappes de l'armée égyptienne. Les forces égyptiennes ont annoncé la mort du leader djihadiste sur leur page Facebook, précisant que plusieurs de ses adjoints ont été liquidés pendant cette opération. Toujours selon les Caire, 45 combattants islamistes ont été tués et des dizaines d'autres sont blessés. Le groupe Ansar Beit al-Maqdes mène des attaques visant essentiellement les forces de sécurité depuis plus de 3 ans. Responsable de nombreux attentats dans les Sinaï, ces groupes auparavant liés à Al-Qaïda avaient fait allégeance à l'État islamique en novembre 2014.
Le président Barack Obama a tenu hier au Pentagone une conférence de presse après une réunion de plusieurs heures avec les leaders militaires américains. Compte rendu d'Éric Manirakiza.
Le président a déclaré que de grands progrès ont été faits pour affaiblir le groupe État islamique. Mais il a simultanément reconnu que ces extrémistes continuaient de poser une menace alors qu'ils changent de tactique pour recruter et entraîner de nouveaux membres et encourager les attaques par les loups solitaires. Sur le terrain en Syrie et en Irak, le groupe État islamique continue de perdre des pans de territoire. Cependant, et tragiquement, nous avons vu aussi que ce groupe a encore la capacité à diriger et à inspirer des attaques, a dit Barack Obama. Bien que de telles attaques puissent aboutir à moins de carnage, l'organisation djihadiste sait qu'elles peuvent encore créer le genre de crainte et soucis qui élèvent son profil. Monsieur Obama s'est engagé à lutter de manière agressive sur tous les fronts contre cette menace. Nous continuons avec nos alliés et partenaires d'attaquer le groupe État islamique partout où il tente de s'étendre. À la demande du gouvernement d'Union nationale de Libye, nous menons des frappes et appuyons les forces pro-gouvernementales pendant qu'elles tentent de reprendre Sirte au groupe État islamique pour sécuriser leur pays. Concernant la Syrie, le président Obama a exprimé de profonds doutes sur la Russie en tant que partenaire pour mettre fin à la guerre dans ce pays. Il a dit ne pas pouvoir dire qu'il fait confiance aux Russes et à Vladimir Poutine, raison pour laquelle il faut évaluer si nous pouvons ou pas une véritable cessation des hostilités.
En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé hier la venue du secrétaire d'État américain John Kerry pour le 21 août. Ce serait la première visite d'un haut diplomate occidental depuis le coup d'État manqué de la mi-juillet. Un porte-parole du département d'État américain, Mark Toner, n'a pas confirmé cette visite. Un mandat d'arrêt a été émis par Ankara à l'encontre du prédicateur exilé aux États-Unis, Fethullah Gülen, accusé d'être le cerveau du coup d'État manqué, ce que l'intéressé nie. Près de 60 000 personnes, notamment des militaires, des juges ou des professeurs, ont été arrêtées, suspendues ou limogées à la suite du putsch raté.
Deux membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués par un drone dans le sud du Yémen hier, a indiqué un responsable de sécurité. La frappe a visé les deux hommes alors qu'ils se trouvaient dans un véhicule militaire à un point de contrôle tenu par les djihadistes dans la province de Chabwa, a-t-il dit à l'AFP.
Quelques 45 chefs d'État assisteront à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Rio aujourd'hui, bien moins que les 80 présents à celle de Pékin 2008 et les 70 de celle de Londres 2012. Plusieurs facteurs semblent avoir joué, des problèmes d'agenda ou de distance, 2 ou 3 jours de voyage pour certains, et le contexte politique brésilien, avec la présidente Dilma Rousseff sur le point d'être probablement destituée. Pour enlever de rideau, nous avons en ligne de Rio notre confrère Alvaro Andrade.
Nous voulons proposer la plus grande fête jamais organisée dans ce pays, dit Daniela Thomas, co-directrice artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. L'organisation ne sait pas encore si le roi Pelé allumera la vasque olympique. Le gouvernement a annoncé hier plus de 80 millions de dollars pour la cérémonie d'ouverture. 3 milliards de personnes vont suivre l'événement à la télévision. Les Jeux olympiques demandent une organisation titanesque qui suscite des questions alors et en proie à une grave crise économique et politique. 15 000 personnes ont protesté contre rencontre président Michel Temer qui sera à la cérémonie. Une des grandes attractions des Jeux Olympiques est la participation de l'équipe de réfugiés intégrée par 10 athlètes africains. Álvaro Andrade, Rio de Janeiro, Brésil.
Fin de ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Éco, John Lyndon.
Kenya Commercial Bank a annoncé avoir réalisé un bénéfice avant impôt de près de 150 millions de dollars au premier semestre 2016, une hausse de 14% par rapport à la même période en 2015. La banque, qui opère aussi en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, au Burundi, au Soudan du Sud, envisage de s'implanter en République démocratique du Congo, Mozambique et Somalie d'ici 2020. Au Cameroun, la Caisse nationale de prévoyance sociale, l'organisme en charge de gérer les fonds de pension des travailleurs, a annoncé sur son compte Twitter qu'elle possédait un total cumulé de 302 milliards de francs CFA de réserves de sécurité et de trésorerie au 30 juin 2016. 196 milliards de francs CFA, c'est ce que la Banque islamique de développement mettra sur la table pour sa participation au financement du train express régional qui reliera Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne de Diaz. La décision a été confirmée par le conseil d'administration de la BID à Djeddah.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour, Idrissa.
Jour J pour l'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. La grande cérémonie d'ouverture, c'est aujourd'hui.
Et oui, l'athlète nigérien Abdulrazal Alfaga a hâte d'y être. Il voudra briller pour remporter la deuxième médaille de l'histoire de son pays. Écoutez ses impressions avant le début du tournoi olympique.
C'est ma première participation aux Jeux Olympiques. Vraiment, je suis content aujourd'hui d'entendre l'hymne national qui a retenti sur le sol du Brésil. Donc vraiment, Inch'Allah, j'aimerais que ça soit plusieurs fois que ça a retenti dans ce pays. Objectif ici à Rio, c'est de remporter une deuxième médaille pour le Niger.
Abdulrazak Alfaga du Niger. Autre avis, celui du nageur malien Oumar Touré qui revient sur l'ambiance dans le village olympique.
Elle est exceptionnelle, hein, bien sûr. Ça fout les frissons et encore, il y a beaucoup à venir. C'est mes deuxièmes Jeux Olympiques. En gros, j'ai fait mes premiers Jeux Olympiques, c'est en Chine, c'est Géorgie, que j'ai effectué à Nankin. Mon objectif, c'est de battre le record du Mali au 100 papillons. Et mon objectif, c'est aussi de m'amuser. On est peu, mais on a une bonne équipe. Et je pense qu'on va faire des belles choses, en tout cas.
Oumar Touré, nageur malien, des réactions recueillies au micro d'Alvaro Andrade, l'envoyé spécial de VOA au Brésil.
Le tournoi de football masculin a débuté hier.
Match nul 0-0 entre l'Irak et le Danemark. Défaite d'entrée des Algériens qui ont perdu 3-2 contre le Honduras. Et puis Idrissa, je vous laisse donner les autres résultats de la nuit dans ce tournoi masculin de football.
Brésil-Afrique du Sud, 0-0. Mexique-Allemagne, 2-2. Portugal-Argentine, 2-0. Colombie-Suède, 2-2. Fidji-Corée du Sud, 0-8. Nigeria-Japon, 5-4. Honduras-Algérie, 3-2. Et maintenant, un mot sur le football africain, Nicolas.
La Confédération africaine de football, la CAF, qui a annoncé la suspension de l'équipe de Guinée-Équatoriale pour les trois prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines. Le Mali profite de cette affaire de passeport de joueuse pour être repêchée pour la CAN 2016 au Cameroun. Elle aura lieu en novembre prochain.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno sera investi le 8 août prochain pour un autre mandat de 5 ans à la tête du pays. Le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, FONAC, créé il y a quelques jours, entend tout faire pour perturber cette cérémonie. De N'Djamena, la correspondance d'André Kodmajingar.
Bien que fragilisé par la démission officielle de Brice Mbaye-Mogoet Mbaye, qui se dit déçu du comportement de ses pairs qui cherchent une visibilité personnelle au détriment d'une lutte commune et celle de Gali Katangote en séjour médical à l'extérieur du pays, le FONAC, une initiative des partis politiques de l'opposition, ne reconnaissant pas la victoire de Déby, persiste ici dans leur logique de contestation. Le FONAC entend combattre le régime en place par tous les moyens légaux et légitimes, conformément à la législation tchadienne avec les regroupements des autres partis politique de l'opposition. Le chef de file de l'opposition et coordonnateur de cette plateforme, Saleh Kebzabo, déroule le programme des actions à mener dans les jours à venir ce jeudi au cours d'une conférence de presse.
Le 6 août, nous allons organiser un meeting. Nous avons eu des séances de travail avec d'autres partis politiques de l'opposition qui ont adhéré à notre démarche, pour autant que leur entité n'est pas remise en cause. La deuxième manifestation que nous organisons, c'est la marche pacifique qui aura lieu le 7 août à partir de 14h sur 4 itinéraires qui convergent tous vers le palais du 15 janvier. Et nous avons déjà saisi l'autorité pour lui annoncer tout cela. Nous, on pense que l'autorisation va nous être accordée. La dernière manifestation que nous organisons, c'est la ville morte. Sur l'ensemble du territoire national, le 8 août, nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas d'activité.
Comme il fallait s'y attendre, la réaction des autorités n'a pas tardé. Toutes ces manifestations ont été formellement interdites au cours d'une déclaration faite également ce jeudi par le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ahmad Mahamat Bachir.
J'ai décidé d'interdire le meeting prévu le 6 août 2016 ainsi que la marche prévue pour le 8 août 2016. Et ce, sur l'ensemble du territoire national. Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant de la garde nationale et nomade du Tchad sont instruits de l'exécution stricte des termes de l'arrêté portant interdiction de ces différentes manifestations.
Joint au téléphone par VOA Afrique, Saleh Kebzabo estime que lui et ses compagnons de lutte sont dans leur bon droit et ils entendent saisir la justice pour que la situation soit clarifiée.
Moi, j'estime que je n'ai pas de réponse du ministre. Une déclaration n'est pas une loi ou un arrêté ou un décret. Cette déclaration du ministre ne nous engage pas puisque nous n'avons pas été notifiés. On va rester en justice et on verra bien qui a raison. C'est en référé, donc c'est une procédure immédiate. La justice va trancher dans l'heure qui suit.
André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h sur 24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Suite de notre série sur les familles présidentielles africaines, aujourd'hui le Bénin. 4 mois après son élection à la tête du Bénin, l'homme d'affaires Patrice Talon fait face déjà à des mécontents tant au sein des populations que de la classe politique. Certains de ses acteurs reprochent au président béninois une gestion cavalière, sans boussole et axée sur la recherche de ses intérêts personnels et de ses proches. Pour eux, il n'y aura pas de réelle rupture, seulement une autre équipe pour continuer la gestion du Bénin par un petit groupe qui s'enrichit au détriment du peuple, et ce, après seulement un peu plus de 100 jours au pouvoir. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur Adandé.
Il aura fallu qu'un seul conseil des ministres pour que la vague des mécontentements se lève, prête à emporter dans ses flots le chef de l'État nouvellement élu et qui le 6 avril dernier a prêté serment sous les vivats et les acclamations du peuple désespéré mais confiant en l'avenir. Mais au premier conseil des ministres, les décisions tombaient et faisaient tant d'heureux que de malheureux. La suspension des concours frauduleux, les nominations de certains artisans, de la victoire du chef de l'État, la résurrection de certaines sociétés de gestion du coton appartenant jusqu'à un passé récent au président de la République et dans lesquelles plusieurs milliards ont été investis suite à une décision prise en Conseil des ministres ont suffi pour faire déchanter certains. C'est le cas d'un certain Lord Rouenou qui s'est déclaré opposant et qui, à travers des sorties médiatiques et autres, tient des propos bien corsés sur la gestion de l'équipe pour Lord Rouenou. L'homme d'affaires est juste venu remettre ses affaires à flot.
Le chef d'État donc a trouvé bon d'envoyer 48 milliards dans le coton, alors que les deux entreprises qui s'occupent donc du coton, l'AIC et Sodeco, ces entreprises-là sont très proches du président Talon. Il se retrouve là, il est le président du conseil d'administration jusqu'à hier de l'AIC. C'est vrai, il a dit dans le journal Le Monde qu'il a cédé ça à ses enfants. Ses enfants, c'est encore lui. Et donc, on n'a pas apprécié ce fait-là. Donc, je pense qu'il est aujourd'hui dans une poursuite de juger parti. Je pense que le peuple doit donc s'apprêter à faire la lutte avec nous.
Il sera rejoint dans son élan par un autre jeune connu pour avoir milité aux côtés du gouvernement défunt. Le Bénin serait, selon ses dires, devenu un État totalitaire.
Nous avons un gouvernement qui navigue à vue. Nous avons un gouvernement qui est sans vision. Nous avons un gouvernement qui est sans priorité. Parce que diriger un pays, ça se prépare. Quelle est la boussole aujourd'hui de notre gouvernement? Plus de 3 mois après, le gouvernement n'a pas un programme de développement. Sur quelle base les populations vont évaluer l'action gouvernementale si le gouvernement n'a pas un programme de développement? C'est ça qui explique la navigation à vue dans tous les domaines. Le poids est complètement tombé. Nous demandons donc au gouvernement de prendre ses responsabilités, de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Mais du côté des proches du chef de l'État, on préfère se garder de répondre à ce genre de provocation, guidée selon eux plus par le désir de se venger d'une déculottée dans les unes que d'une volonté de construire et de participer au développement national.
Je veux vous faire remarquer que le président Talon est un pur produit du secteur privé. Premier élément, fondamental. Donc c'est quelqu'un qui a appris à être rationnel. Il n'a pas appris à gaspiller les ressources. C'est ça d'ailleurs qui a fait qu'il a réussi. Donc je le vois déjà venir transposer le système privé fondé sur la rationalité, la rigueur dans le système de gouvernance publique.
En attendant une opposition fiable pour seconder la veille citoyenne qui se fait par la société civile, les Béninois continuent de croire que Patrice Talon conduira le bateau bénin à bon port, même si certains ont perdu l'espoir. De Cotonou, Jeanette Le Adondé pour VOA Afrique.
Aboubakar Shekau, leader de Boko Haram, a refait surface hier pour affirmer qu'il était toujours présent dans un message audio. Il réagissait à l'entretien d'Abu Mossab al-Barnaoui dans l'hebdomadaire officiel du groupe État islamique qui présente Barnaoui comme le nouveau chef du groupe en Afrique de l'Ouest. Mais qui est ce personnage? Eh bien, Idriss Fall a joint Yan Saint-Pierre, consultant en contre-terrorisme basé en Allemagne.
Ce serait le petit-fils de Mohamed Youssouf, qui était le fondateur de Boko Haram au début des années 2000. C'est quelqu'un qui a la réputation d'être l'espèce de porte-parole de l'État islamique province de l'Afrique de l'Ouest. Il s'était déjà exprimé en janvier 2015 par rapport aux atrocités de Baga. Il avait affirmé comme quoi une tuerie indiscriminée, c'est pas quelque chose de bien. C'est vu comme un modéré. Crimine un peu plus en termes des victimes. Donc, c'est un choix assez intéressant. La relation avec l'État islamique qu'on a pu voir depuis près de 2 ans, c'est jamais développé au-delà d'une relation d'affaires. C'est-à-dire que oui, il y a un certain encadrement idéologique, il y a un certain encadrement stratégique, mais surtout, ça a été l'approvisionnement de ressources, l'utilisation des routes de trafic. On parle beaucoup plus d'une collaboration logistique qu'idéologique ou stratégique.
Mais qu'est-ce que ça signifie pour Boko Haram d'avoir plus ou moins 2 têtes?
Pour nous, ce que ça confirme, effectivement, c'est un peu la division au sein du groupe qu'on a pu voir depuis au moins 1 an et demi, presque 20 mois. Au niveau stratégique, au niveau tactique, au niveau de la propagande, on voit qu'il y a plusieurs différences. Il y a environ 2 mois, à la frontière du Cameroun, 600 otages. Un des survivants mentionnait qu'ils sont entrés au village, puis plutôt que de massacrer le village, ils se sont mis à cerner les gens, leur demander « Êtes-vous musulman? Êtes-vous chrétien? Si vous n'êtes pas musulman, êtes-vous prêt à vous convertir? » C'est quelque chose qui est typique d'Al-Qaïda. C'est quelque chose qui est aussi typique de l'organisation État islamique à ses tout débuts, donc Al-Qaïda en Irak. Ça montre qu'il y a une certaine vision idéologique, une certaine vision tactique. Et maintenant, maintenant, ce qu'on voit au grand jour, c'est vraiment ces divisions-là, cette lutte pour le pouvoir à l'interne qui se joue maintenant sur la place publique.
Le groupe État islamique est présent en Syrie et en Irak. Il y a une poche à Syrie. Quel est l'intérêt pour l'Afrique de l'Ouest?
L'Afrique de l'Ouest, malheureusement, depuis plusieurs années, est dans une phase où il y a une espèce de vide au niveau de la sécurité, au niveau du pouvoir, au niveau de la politique, qui fait en sorte que c'est pour des organisations terroristes comme Al-Qaïda au Maghreb, par exemple, qui sont mis à combler ce vide. Et pour l'organisation État islamique, le marché de l'Afrique de l'Ouest, bonne population musulmane, avec accès à plusieurs routes de trafic, à plusieurs marchés, la connexion entre l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, vers l'Afrique du Sud, vers l'Afrique de l'Est, c'est une zone qui est essentielle pour développer des marchés. D'ailleurs, l'Afrique de l'Ouest, c'est devenu une zone très attirante. C'est un foyer aussi de gens qui sont très mécontents. On regarde la situation en Côte d'Ivoire. Il y a des soulèvements et des tensions au Mali. Donc, pour l'organisation État islamique, ça représente une zone où elle peut bien s'implanter et acquérir de nouvelles ressources.
Yann Saint-Pierre, consultant en contre-terrorisme basé en Allemagne. C'est l'heure de parler politique américaine sur VOA Afrique à moins de 3 mois de la présidentielle en novembre prochain. On retrouve Nicolas Pineau. Donald Trump, toujours sous le feu des critiques dans son propre camp, Nicolas.
Oui, le candidat républicain qui a rencontré mercredi soir en Floride des familles de militaires américains morts au combat. Donald Trump, dont la campagne connaît de nombreux soubresauts depuis la convention de Cleveland. Hier, le journal Washington Post titrait même que le parti républicain était à un nouveau niveau de panique autour de la campagne du candidat Trump. Le directeur de campagne du milliardaire new-yorkais, Paul Manafort, était l'invité hier d'ABC News. Il a tenté de rassurer tout le monde. On l'écoute.
Le soutien pour Donald Trump est là. Le message de la campagne a été défini. Les thèmes de cette campagne également. Je crois qu'il essaie différents messages au cours des meetings. Il a eu plein de succès pendant les primaires. Il tire sa force et son message de ses interactions avec le public.
Paul Manafort, le directeur de campagne de Donald Trump.
D'autant que les derniers sondages ne sont pas en faveur du milliardaire new-yorkais.
Et oui, dans les swing states, ces États qui basculent d'un parti vers l'autre à chaque élection, eh bien Hillary Clinton mène largement en Pennsylvanie, dans le New Hampshire et dans le Michigan. Du côté de Donald Trump, on annonce déjà que l'élection de novembre sera biaisée. Ces accusations de fraude ont été jugées infondées par la Maison-Blanche.
Une bonne nouvelle tout de même pour Donald Trump.
Oui, puisqu'il a réussi à lever 80 millions de dollars de fonds pour le mois de juillet. C'est pourtant moins qu'Hillary Clinton, la candidate démocrate qui a levé 90 millions de dollars. Pour vous donner une idée, Idrissa, Donald Trump a déjà dépensé, depuis le début de sa campagne, 56 millions de dollars de sa fortune personnelle.
La campagne, justement, ce jeudi.
Oui, Mike Pence, le colistier de Donald Trump, était hier à Raleigh, en Caroline du Nord, pour parler énergie. Mais il a aussi critiqué l'administration Obama pour s'excuser éternellement, selon lui, et favoriser les ennemis des États-Unis. Une question d'un garçon de 11 ans a beaucoup fait rire la salle hier. Il a demandé à Mike Pence s'il avait été choisi pour apaiser le bouillonnant Donald Trump. Voici la réponse de Mike Pence.
Let me tell you what, I couldn't be more... Je ne peux pas être plus fier d'être aux côtés de Donald Trump. On est ensemble, épaule contre épaule, dans cette campagne, mon ami. Je vous le promets. Donald Trump et moi sommes déterminés à travailler ensemble. On a différents styles, vous l'avez noté, mais ces différences ne devraient pas être vues comme une différence de conviction.
Mike Pence, le gouverneur de l'État de l'Indiana. De son côté, Tim Kaine, le colistier démocrate, était à Baltimore, dans le Maryland, pour parler d'urbanisme et des grandes villes américaines. On l'écoute.
Si Hillary Clinton et moi gagnons en novembre, vous aurez deux personnes qui comprennent les défis auxquels sont confrontées les villes américaines. Et nous nous engageons à travailler avec vous pour les résoudre. Je crois en nos villes qui sont une source unique de notre force nationale.
Tim Kaine, le colistier démocrate d'Hillary Clinton.
Merci Nicolas Pineau. La campagne présidentielle américaine s'est à retrouver dans un dossier spécial sur voaafrique.com.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.